Sont-ils des geeks ?
Sont-ils fanboys ?
Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés.
Animé par Teddy et Fabien.
Alors on va vous faire plaisir avec une petite pastille nanar, enfin plutôt une grosse pastille nanar. Aujourd'hui on va innover en vous proposant un duel de nanar. Donc on a le film Dragon Ball Evolution sorti en 2009, donc suite à l'œuvre d'Akira Toriyama. Et ensuite un film de 1995 qui s'appelle Ken le Survivant.
Plus précisément c'est North Star, la légende de Ken le Survivant.
Donc on va vous faire une petite comparaison sur ces deux nanars qui peuvent être mis en commun pour des raisons qu'on va vous expliquer au fur et à mesure. Et on va revenir un peu sur l'œuvre de chaque univers. On va commencer par l'univers de Dragon Ball. Alors je sais pas c'est lequel le plus connu, hein, si c'est l'univers de Dragon Ball ou l'univers de Ken, bah, sachant que par exemple l'univers de Dragon Ball il est toujours d'actualité en ce moment.
Bah, le truc de Dragon Ball c'est qu'il n'y a pas eu de grande coupure comme celui de Ken, c'est-à-dire que ça a été tout le temps en continu. D'ailleurs c'est ça qui fait que Dragon Ball à travers la génération a survécu. Avec Ken on a quand même une grosse coupure dans les années 2000 quoi.
Alors en fait avec Dragon Ball on a aussi une grosse coupure, c'est-à-dire qu'on a eu à la fin de Dragon Ball Z, on a eu quand même quelques années avant d'avoir le Dragon Ball GT, qui a été un bide littéralement, hein, parce qu'il reprenait pas vraiment les arcanes de ce qui avait fait le succès de Dragon Ball. En même temps, Dragon Ball GT, donc Akira Toriyama, qui a créé Dragon Ball, en 85 dans le Weekly Shonen Jump, ce qui est un peu la bible des futurs mangas qui va sortir au Japon. Voilà, donc Akira Toriyama voulait pas faire Dragon Ball GT. Déjà, Akira Toriyama voulait s'arrêter avant certaines sagas de Dragon Ball Z. Donc on a d'abord Dragon Ball, Dragon Ballu en VO, l'histoire d'un homme singe, enfin d'un garçon singe qui est basé sur en fait un conte chinois. Hein. Un garçon singe avec un bâton magique qui fait des combats d'arts martiaux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein, le pitch. Donc Dragon Ball qui était à la suite, qui était fait après Dr. Slump par Akira Toriyama. C'est-à-dire qu'Akira Toriyama avait commencé par Dr. Slump. Il y a eu un succès, on va dire mitigé, avec la fameuse et qui était un robot et qui était complètement fofolle. Et à partir de ce moment-là, ils ont laissé carte blanche à Akira Toriyama pour travailler une idée qui lui trottait dans la tête depuis des années, et ça a donné Dragon Ball. Il voulait faire un univers, parce qu'il adorait cette légende chinoise de ce petit garçon singe avec son bâton qui parcourait le monde pour se découvrir lui-même et découvrir ses capacités. Et Akira Toriyama, dans sa tête, il avait un petit programme bien établi de ce qu'il voulait faire avec ce personnage. Et donc en 1985, quand les premières planches de Dragon Ball sont apparues, bah, succès phénoménal d'Akira Toriyama, accrochage dans le Weekly Shonen Jump, donc le Weekly c'est celui qui sortait toutes les semaines, et puis à partir de là bah, mise en place de l'univers par Akira Toriyama, et au Japon succès colossal dès l'année 86 pour Dragon Ball et les premières sorties en format poche.
Alors une petite précision, c'est que tu parlais d'enfant singe et il me semble que c'est la traduction latérale de Son Goku en fait. Par contre, on va peut-être préciser ce que c'est que Weekly Shonen Jump. C'est un magazine qui proposait des pré-publications avec des petites histoires pour justement tester auprès du public comment que ça marchait. Et ils l'ont fait aussi pour de nombreuses séries. Donc il y a Dragon Ball, il y a Ken et puis il y a aussi Saint Seiya. Et donc ensuite, quand ils voient que c'est un certain succès au bout d'un an, et ben ils font ce qu'on appelle des volumes. Ils regroupent ces histoires et ils en font des chapitres communs. Quoi, en fait,
c'est plus compliqué que ça. Ils doivent avoir un plan à long terme pour apparaître dans le Weekly Shonen Jump, parce qu'ils doivent donner un synopsis sur plus de, ouais, je dirais sur plus de 200 numéros. Par exemple, si tu prends Saint Seiya, ça a paru d'abord dans le Weekly Shonen Jump, et comme tu dis, ça fait une période d'essai. Si dans le Weekly Shonen Jump, les lecteurs votent, parce que c'est les lecteurs qui votent, s'ils votent pour ce manga plutôt qu'un autre, et ben ce manga a une chance d'être publié. Si tu prends tous les trucs colossaux qui ont marché, donc Dragon Ball, Saint Seiya, Hokuto no Ken, même plus récent, hein, One Piece, Fairy Tail, Food Wars, tous les trucs comme ça, ils sont quasiment tous apparus dans le Weekly Shonen Jump, faire leurs premières armes dans ce magazine. Et si tu prends par exemple l'exemple de One Piece, il continue toujours à sortir dans le Weekly Shonen Jump, mais plus pour le fanservice maintenant que pour raconter une vraie histoire.
Enfin, pour comparer, c'est que on avait plusieurs histoires qui sont en fait... c'est un peu comme dans la magazine Marvel ou genre de Mickey. On a une histoire qui est divisée en plusieurs parties, et ensuite ensuite on sort l'album intégral, quoi. C'est ça, en fait.
Voilà, dans le Wicked Shonen Jump, vous n'aurez jamais une histoire entière, ou rarement. C'est-à-dire que vous aurez des morceaux pour vous faire accrocher et pour vous faire acheter après les mangas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait voter. Comme ça, on crée déjà la base de fans dans le Wicked Shonen Jump et on sait qu'on a déjà une base potentielle de clients qui vont nous acheter les mangas après. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est très japonais comme façon de penser. Mais en même temps, c'est comme ça que ça fait exploser la culture du manga au Japon, hein. C'est-à-dire qu'en attaquant directement les fans à la source, hein. C'est-à-dire que votre avis, c'est quoi? Vous aimez bien? Bah, tu te sens concerné, et puis conclusion, quand ça sort, t'achètes.
Ouais, c'est pour fidéliser le public, en quelque part. Et au-dessus de Dragon Ball, il y a eu plusieurs séries, je sais pas si tu peux les nommer, et aussi parler des productions taïwanaises et coréennes qui ont sorti, qui sont officiellement reconnues.
Je vais faire d'abord peut-être un petit retour pour savoir pourquoi en France c'est aussi connu Dragon Ball. Donc on a une petite émission qui avait fait un petit peu d'audience dans les années 90. Bon, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelait Club Dorothée. Et en fait, comme en France, on sait pas, et on savait pas plutôt à l'époque, produire de dessins animés, ils ont été au servir là où c'était fabriqué à la chaîne, c'est-à-dire au Japon. Et ben, les mangas étaient achetés au kilo. C'est-à-dire qu'on les regardait pas avant. On achetait des mangas à la chaîne, et puis on les diffusait. On les doublait vite fait, et on nous les diffusait comme ça en France, et puis on a quelques perles comme ça qui sont sorties en France, comme Saint Seiya, Dragon Ball, Hokuto no Ken. Après, des trucs un peu plus discrets, comme Juliette Je T'aime,
Nicky Larson aussi,
Olivier Tom, ouais. Cat Size, tout ce qui a bercé notre enfance, en fait, on le doit à Dorothée. Et donc Dragon Ball dans le club Dorothée, les premiers Dragon Ball étaient très enfantins. Donc forcément, ça a plu à la jeunesse. Et après, c'est vrai que Dragon Ball, ça a évolué en Dragon Ball Z. Sachant que Z au Japon, ça veut pas dire Z, ça veut dire 2. Donc en fait, c'était Dragon Ball 2. C'était le fils de Sangoku qui devrait prendre le relais, donc Sangohan. Donc en fait, le fils de Sangoku, Sangohan, devait être le nouveau héros, mais les fans ont gueulé comme c'est pas permis. Donc ils ont ressuscité Sangoku. Donc voilà, c'est le seul écart que Toriyama y a fait. Après, Dragon Ball Z, on va dire Dragon Ball, c'est l'arcane jusqu'à Piccolo. Donc Piccolo, ça tend petit cœur, hein, pour les francophones. Après, cet arcane-là, arrive Raditz. Donc on apprend vraiment l'existence des Saiyans, donc des guerriers de l'espace en français. Il faudra qu'on reparle des traductions aussi.
Ouais, aussi, ouais.
Voilà. Puis après, voir que cet arcane-là va normalement devait aller jusque Cell, donc qui représentait l'aboutissement ultime du pouvoir Saiyan, parce que Cell était un mélange du pouvoir de tout le monde, hein, pouvoir de Krillin, Yamcha, Sangoku, de Freezer. Voilà, c'était une synthèse de tout le monde et il y avait le pouvoir de tout le monde en fait. Et normalement, ça devait s'arrêter à Cell où Sangohan pulvérisait Cell. Désolé, moi les spoilers, il va en avoir plein parce que je vais supposer que vous avez déjà tout vu. Et donc à ce niveau-là, Toriyama voulait arrêter à Cell. Pour lui, l'histoire était finie à la période Cell. Après le Cell Game, c'était fini, il n'y avait plus rien. Les fans ont gueulé, et le problème, c'est qu'il était encore sous contrat, monsieur Toriyama. Donc après, il a sorti l'arc de Boo. Donc voilà, donc un sorcier maléfique, Boobidi, qui avait créé un être suprême qui s'appelle Boo, qui l'a enfermé dans un œuf pendant des millénaires, et puis son fils, Babidi, va ressusciter Boo pour recréer un nouvel arc pour Dragon Ball, hein, juste trouver un ennemi encore plus puissant. Alors comment j'arrive à retenir tous ces noms? C'est simple, hein. Le père Boobidi, le fils Babidi, et le méchant Boo. Boobidi, Babidi, Boo, ça vient de Cendrillon, tout simplement. Les personnages viennent de là. Sangoku, son vrai nom Saiyan, c'est Kakarot, donc carotte. Vegeta, végétal.
Ouais.
Voilà. Raditz, c'est le radis. Nappa, c'est les navets. Donc voilà, tous les Saiyans ont des noms de légumes. Après, on prend les personnages Sangohan. Gohan, c'est de la bouffe, hein, c'est le riz de mémoire, si ma mémoire est bonne. Goten, ça veut dire fils d'eux. Donc c'est le fils de Sangoku. Si on prend Trunks, c'est de mémoire, ça veut dire... je sais pas, ça veut pas dire slip ou culotte ou un truc dans le genre. La fille, deuxième fille de Vegeta, bras, ça veut dire soutien-gorge. Donc voilà, c'est du Toriyama, ça. C'est-à-dire que tous les prénoms ont une valeur. Quand on prend après l'arc, après donc Boo, avec tous ces personnages en couleur, là ça s'est arrêté. Et ils ont voulu relancer la licence Dragon Ball. Et là, Toriyama était pas d'accord parce qu'ils ont relancé ce qu'on appelle le Dragon Ball GT, Great Tourism. Donc là, ils s'en vont dans l'espace et ils vont chercher des boules de cristal plus puissantes pour facilité scénaristique, mais tout simplement, hein, c'est-à-dire pour lancer Sangoku dans l'espace. Et puis là, c'est la déchéance au niveau du scénario, quoi. C'est quelque chose qui est dur à regarder parce que, dans les épisodes d'avant, on avait un Trunks hyper colossal alors qu'il a, c'était un gamin de 5 ans, il arrivait à battre des guerriers beaucoup plus forts que Sangoku en fusionnant avec Sangoten. Et puis là, on a un Trunks complètement lavette qui sert à rien. Voilà, en plus, c'est Pan. Pan, la fille de Sangohan, qui s'en va avec eux. Sangoku, il rajeunit, ça redevient un gamin. Voilà, c'était horrible à regarder cette série, ça avait pas vraiment de queue ni tête. C'était vraiment, on fait une suite à Dragon Ball pour se faire du cash. Bah, avant de revenir sur Dragon Ball Super, ouais, on va revenir après ce qui a passé sur Dragon Ball GT, c'était Dragon Ball Kai.
Oui.
Et là, en fait, c'est Dragon Ball Kai, c'est Dragon Ball Z, mais sans ces longs passages où ils te reprennent pendant 10 minutes et te expliquent ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant.
C'est ça.
Donc voilà, donc Dragon Ball Z Kai, c'est plus rythmé, et en France... Heureusement qu'on a eu Dragon Ball Z Kai, parce que enfin on a eu des vrais noms d'attaque. Par exemple, Genki Dama, c'est redevenu un Genki Dama, pas un Kamehameha, alors que c'en est pas un. L'attaque magique, c'est revenu un Mazenko, parce que ben voilà, Sangohan qui gueule attaque magique, alors qu'en version originale c'est Mazenko, et puis voilà.
Ça a plus de classe, quoi.
Voilà, c'est ça a plus de classe. Ou alors le Final Flash de Vegeta qui devient en français attention. Final Donc Dragon Ball Z Kai, ça dans la VO ça a été revu, et en fait ça a été beaucoup plus rythmé, et comme les fans ont bien adhéré à Dragon Ball Z Kai, ils ont ressorti Dragon Ball Super. Avec tout ce qu'on connaît sur Dragon Ball Super, ça a été un peu mal dessiné, parce qu'il devait enchaîner les épisodes, tout simplement. Il y avait l'histoire, ça devait s'enchaîner, il fallait sortir un épisode tous les semaines, donc il fallait aller vite, 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 et beaucoup de dessins sont bâclés, un peu comme les dessins de Naruto sur certains épisodes. Par contre, si on regarde les formats DVD de Dragon Ball Z Kai, ils ont été totalement redessinés parce qu'ils ont eu le temps de les sortir, et là, ils sont beaux. Mais Dragon Ball Z Super. Et si on reprend donc les épisodes de Dragon Ball Z Super maintenant... Voilà, c'est classique, hein. Sangoku, des ennemis plus forts, il n'y en a plus dans l'univers parce que c'est le numéro 1, et il s'en va affronter par un Deus Ex Machina, on va dire quelque chose comme ça. Voilà, un tournoi intersidéral et interdimensionnel avec 7 autres ou 9 autres univers.
Pas heureusement qu'on n'a pas les 52 univers du DC Comics, quoi.
Ah ouais, si c'était les terres parallèles et les 1000 et quelques univers, là, ça aurait été compliqué.
Ouais.
Mais après, la base, c'est toujours la même chose, hein. Dragon Ball, c'est une histoire qui peut être résumée. Un être fort va trouver plus fort que lui, il va devoir se dépasser et trouver un nouveau power-up pour battre son adversaire. Et j'ai résumé tous les épisodes de Dragon Ball, du premier au dernier.
Ben, quand j'entends parler de cette histoire de dépassement de soi, c'est un peu aussi le même principe que Ken, quoi, finalement.
Alors, moi, Ken, j'ai plus... voilà, c'est le dépassement de soi physique, mais ouais, aussi mental, c'est-à-dire...
Spirituel, le milieu, ouais.
Voilà. Tandis que Dragon Ball, le spirituel, bon, on nous lâche un peu comme ça, mais voilà, c'est du physique. On devient de plus en plus fort à chaque fois qu'on frôle la mort. Il n'y a pas grand-chose de spirituel là-dedans. Ken, il y a plus de cérébral dans Ken.
Et est-ce qu'on peut parler, ou bien on peut parler en même temps que Ken, de ses problèmes un petit peu de censure aussi, qui a eu la série pour le club Dorothée.
Alors Dragon Ball a été moins censuré que Ken. Il a été censuré quand même, hein. C'est-à-dire que les boyaux à Piccolo, on les voit jamais, parce qu'à un moment, voilà, Sangoku, on voit quand même une grosse patate dans les boyaux au premier Piccolo, et trou dans le bide, quoi. Après Krilin qui se fait transpercer le cœur, Sangoku qui se fait transpercer l'épaule, ça a été très édulcoré, ça a pas gêné pour le récit, mais ça a été très édulcoré en France. Dragon Ball a quand même été moins censuré que Senseiya, par exemple, alors que Senseiya c'est plus gentillé quand je vois la VO. Par rapport à Dragon Ball, où il y a quand même des fois des culottes, des chattes, des nichons et des insultes. Ah, Senseiya, c'est quand même un peu plus édulcoré dans la VO, mais ça a été plus censuré. Dragon Ball, après, pour comparer à Ken, dans les façons de parler des acteurs qui doublaient, voilà, c'était quand même plus crédible. Surtout celle qui doublait Sangoku jeune, hein, qui continue à doubler maintenant, qui a doublé aussi Oui Oui d'ailleurs. Je sais plus son prénom, mais voilà. Donc c'est toujours resté assez fidèle, ça va, on y croyait la doublure. Au doublage, pardon. Par contre, si on repart sur le doublage de Hokuto no Ken...
Ouais, on en reparlera tout à l'heure, mais... C'est vrai que malgré que les voix étaient connues, on va pas s'étaler maintenant, mais il faut savoir aussi qu'au cinéma, je sais pas si t'as vu les versions taïwanaises et coréennes, qui sont officiellement reconnues par l'éditeur, mais on voit quand même beaucoup de perruques et de gars mal fringués, quoi.
Alors dans la version taïwanaise, ouais, c'est ça, ça suit un petit peu... l'évolution de Dragon Ball, et puis à un moment ça part totalement en vrille parce que c'est la tortue qui gagne le combat, parce qu'il s'en va aider la tortue, après voilà, le petit Sangoku, sinon ça partait bien, hein. Mais je sais pas, on dirait qu'ils ont abandonné l'idée du scénario au milieu du film. Après, si on prend la version sino-coréenne, c'est vrai qu'elle est plus gentillette, elle a d'ailleurs été refaite en 2000... et quelques. Elle a été retournée avec des effets 3D. Et bon, c'est toujours aussi pourri, hein. C'est-à-dire que, voilà, il y a le Sangoku qui s'est déjà volé, et puis, bah, il vole pas quand même, il rencontre Bulma, il se fait tirer dessus, il dit qu'il faut pas toucher les filles parce qu'on n'est pas des violeurs ou des trucs comme ça. Voilà, ça reste gentillet. Mais c'est des films qui ont au moins tenté de respecter, alors, grosso modo, hein, l'univers de Dragon Ball, et au moins d'avoir une base directrice pour l'univers de Dragon Ball, ce qui est pas le cas de Dragon Ball Evolution.
En plus, je pense que le film a été rebaptisé Dragon Ball et les 7 boules de cristal. Ça doit être la version coréenne qui sortira en DVD en France, je pense, ou en VHS. Pour les fans de Dragon Ball, c'est un petit collector, quoi.
Bah, c'est un petit collector, il est... ça reste un nanar quand même, mais ouais. Voilà, il est plus agréable à regarder qu'un Dragon Ball Evolution. Après, pour la version taïwanaise, il est extrêmement, extrêmement dur à trouver. C'est même en import ou sous le manteau, comme on dit, il est quasiment impossible à trouver. On n'en trouve que des extraits assez rigolos d'ailleurs, parce que c'est assez parodique, hein, quand même. Donc voilà, très, très dur à trouver.
Voilà, donc tu parlais justement de Dragon Ball Evolution. Je pense qu'on peut aborder le gros truc.
Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Dragon Ball, on y a eu le droit dans les années 90 en France. Ouais. Par contre, aux États-Unis, ils ont eu le droit qu'à partir des années 2000. Donc déjà, c'est arrivé avec 10-15 ans de retard chez eux. Et il y a eu une hype dans les années 2000 au niveau des États-Unis sur Dragon Ball, qui était pourtant très mal doublé en version américaine. Et la Fox s'est dit, tiens, y a des fans pour ça, il y a moyen de se faire du blé, on va faire un Dragon Ball. Et ça a traîné des années, des années, des années jusqu'en 2009. Et puis un jour, la Fox nous a dit, penchez-vous en avant, on va vous enculer, et ils nous ont sorti une affiche de Dragon Ball Evolution. Et en tant que fan, j'ai vu ça, j'ai dit, putain, on est mal barré. Donc ce film, je suis allé le voir donc le 1er avril 2009.
T'as été voir au cinéma?
J'ai été le voir au cinéma le jour de sa sortie. Donc je suis allé le voir avec un ami, on était fan de Dragon Ball, on était hypé, on s'est dit « ça pourra pas être si dégueulasse que ça ». Et en fait, on a subi un viol mental, hein, tout simplement. Donc voilà... Je sais pas ce qui s'est passé, je veux dire, ils ont 52 volumes de scénario, et ils se sont dit non, Sangoku, ça va être un ado prépubère qui pense qu'on est net et à draguer, et qui va dans un lycée, enfin de la Chine hein, plutôt, parce que là tous les personnages principaux sont blancs, et tous les personnages secondaires c'est des Chinois, hein. Donc ça voilà, c'est Dragon Ball, et puis ben, un film à la con quoi, quand même 30 millions d'euros de budget. Donc en 2009, hein. Donc des films en 2009 qui sont sortis avec des bons effets spéciaux.
Moi si je peux engager, bon déjà t'as un film qui fait 1h20, tu es obligé de voir que le scénario a été complètement compressé.
Non mais je t'arrête tout de suite, hein. Il n'y a pas de scénario, hein. Non tu peux arrêter, il n'y a pas de scénario.
Non mais disons qu'on... Disons que moi je vais parler du film en tant que spectateur, pas en tant que fan du manga, je dirais.
Ah même en tant que fan, en tant que spectateur, il y a strictement aucun scénario.
Mais ce que je voulais dire, c'est que t'as une petite histoire qui reprend en gros les personnages principaux de Dragon Ball du premier, avec Sangoku, Tortue Géniale.
Bah alors,
Maître Roshi.
Donc t'as Sangoku qui est plutôt d'être quelqu'un entraîné à la dure, qui devient un adolescent prépubère qui pense qu'à sa bite. Après t'as Shishi qui est quand même dans le manga une femme forte, hein, au sens littéral du terme, hein, c'est-à-dire qu'elle arrive à contrôler Sangoku quand même, Shishi. Hein. Shishi, elle lui dit tu fais ça, t'obéis, voilà, Sangoku il obéit, humour japonais. Là Shishi, voilà, c'est la perle nibar, love interest de Sangoku dans le film. Roshi-sama, donc tourné par, qui est incarné par celui qui a fait Tigre et Dragon, là.
Tu parles de Shoyun-Fat.
Ouais, Shoyun-Fat, qui surjoue et qui cabotine à mort.
Tortue Géniale.
Qui est pas crédible, moi je veux dire, dans le film taïwanais, le Tortue Géniale il était crédible. Hein.
Dans
celui-là, il est pas crédible du tout. Et puis, on nous met Bulma, je vais l'appeler Père de Nibar numéro 2. On nous met une Bulma qui sert à que dalle. Bonjour, je viens chercher les boules du dragon, pourquoi faire ta gueule, on s'en fout, hein, on est là pour faire un film. C'est un monde de RPG, hein, donc en une journée, ils arrivent à trouver les 7 boules de cristal. Enfin, c'est assez concentrique, hein, ils sont tous dans le même coin. Il y a on nous les annonce même pas, je veux dire, à un moment, ils tombent dans un trou, et puis c'est Yamcha qui a fait un piège. Mais il sert à rien dans le film. Il sert juste à rentrer en contact. Mais fermez vos gueules, on a mis Yamcha. Ça va les fans, vous êtes contents, on a mis Yamcha dans le film.
Il est catastrophique dans ce film.
Voilà. Et puis, bonjour, hein, 30 millions d'euros, de dollars, et puis les effets sont dégueulasses.
Ah oui, t'as noté le beau fond vert quand ils sont en moto, là, qui tombe dans le piège. Là.
Ah ouais, ouais,
qu'est-ce
que
c'était horrible.
Bah putain, ils tombent dans le piège, et 20 mètres après le piège, oh, il y a une boule de cristal dans le piège.
Avec une espèce de rivière de lave, là, la Mustafar de Star Wars.
Et puis, même, je voudrais revenir sur le début du film. Il y a très longtemps, un singe géant venu de l'univers... Ah bah ça y est, on s'est fait enculer en 20 secondes, dis donc. Ouah, alors.
Bah surtout que cette intro, si je peux me permettre, elle est répétée par Chow Yun-fat pendant le film. Donc ça sert à rien de faire une double intro pour moi. C'est juste pour ajouter quelques minutes au film, quoi.
Bah j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon alors, il faut Sangoku, check. Bah ouais, mais faites une histoire. Il faut une Bulma, check. Il faut des Dragon Ball, check. Il faut Roshi, check. Ouais, mais mettez un scénar derrière. Ah, il faut un singe géant aussi. Bon, bah on va le mettre à la fin.
Ouais, vous voilà. Avez...
Ouais, mais on sait pas comment le mettre. Oh, t'inquiète, on va dire que c'est Piccolo qui gère le singe. Non, mais ça tient pas debout, ouais, les
tu
mecs.
Tu parles de Ozaru, l'espèce Ozaru, de... Ouais. Ouais, c'est pas vraiment un singe, c'est plus une espèce de loup-garou.
Ouais, un singe de 2 mètres de haut.
Donc, bah,
comme
on
disait
apprend
Frédéric Mollas, tu pètes un pont, il passe plus, le singe.
on apprend qu'en fait, Ozaru et Son Goku, ils ne font qu'une seule et même personne. Ouais, ça, c'était quand même débile. Et puis, bah, moi, il y a un truc qui m'a un peu choqué. Enfin, choqué, faut pas non plus, on va relativiser, mais Piccolo, il s'est barré de sa prison, mais tu sais pas comment, quoi.
Ah, ta gueule, c'est magique.
C'est exactement ce que j'ai pensé, en fait.
Ah, c'est exactement ça. On nous balance des personnages. Mmh. Oui, Piccolo est revenu. Bah, ouais. Hein, normal, il était marqué dans le scénar. Mmh. Mais voilà. Puis en plus, Piccolo joué par un acteur formidable, hein, celui qui a fait Pike dans Buffy contre les vampires. Bon, ça devait être le seul film qui voulait l'embaucher. Hein.
Ouais. Bah, de toute façon, j'ai l'impression que y a beaucoup d'acteurs dans ce film. Bah, à part Chow Yun-fat, que moi je préfère voir dans les films de Hong Kong, le polar de Hong Kong, les films d'action. D'ailleurs, il a fait une dope qui s'appelle Le Gardien du Manuscrit Sacré. C'était à peu près le même rôle qu'il avait là-dedans. Et là, c'est vrai qu'il cabotine, il grimace, il fait un peu n'importe quoi. Puis avec sa chemise hawaïenne, ça va pas, quoi.
Ouais, bah, la chemise, c'était... parce que ouais, c'est Roshi, hein, il a une chemise hawaïenne, mais...
C'est un clin d'œil.
Mais si, voilà, quoi. Enfin, et puis c'est bourré de LF1, donc vous aimez ce que vous aimez, vous avez intérêt à aimer. À la fin, on nous met la tenue de Sangoku orange, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais elle sort de nulle part, quoi, cette tenue.
Bah ouais, elle sort des espèces de valises, mais c'est vrai que... ouais, finalement, ouais.
Ouais, parce que normalement, la tenue, même ça, c'est Roshi qui reconnaît la qualité des lèvres qui ont dépassé le maître et qui donne une tenue de Roshi à ses élèves, quoi, voilà. Puis là, non, ça fait vraiment le film... ouais, pourri. Même les fanfics sont mieux réalisés, de toute façon.
Ouais, puis bon, on voit que c'est fait pour amener de la thune. Il y a aucune volonté, manifestement, de respecter la saga.
Bah, on peut pas respecter la saga, mais... là,
bah, on chie dessus, quoi.
Ouais, mais là, mais on nous met même pas le scénario complémentaire. C'est-à-dire, on nous met des personnages. Voilà, il faut qu'il y ait lui, on mélange tout dans un shaker et on vous le sert.
C'est hyper linéaire, quoi. Tu devines tout ce qui va arriver. J'en veux pour preuve cette espèce de bagarre à la con qui est au début du film où Son Goku, en fait, il doit essayer de rentrer dans la soirée et qu'il se fait apostropher par 4 abrutis qui font du kung-fu. Et même il y a le Black qui vient et comme un con, il bousille sa bagnole alors que déjà que Sangoku n'arrête pas de gigoter dans tous les sens sur sa voiture et que l'autre il bousille littéralement sa voiture, quoi. Mais c'est vraiment d'une débilité ces scènes de bagarre au début.
Bah, même les scènes de bagarre à la fin sont débiles, hein, ouais. Voilà, enfin tout le film est débile. Il y a pas de matière dans ce film. Et le pire, c'est qu'il y a du cash. Il y a 30 millions derrière. Moi, je le vois pas dans le film. Franchement, je le vois pas. Les 30 millions, je sais pas où ils les ont mis. Même les films taïwano-coréens sont mieux réalisés. Et pourtant, c'est des années 80-90. Ouais, c'est pas génial au niveau des décors, etc. Mais ils sont mieux réalisés. Bon, il y a des faiblesses. Hein. Ouais. Le masque du méchant, voilà, on sait que c'est du plastique.
Ouais.
Voilà. Et pourtant, on y croit mieux que ce film de 2009 sorti par la Fox.
Mais ils engagent des acteurs.
D'ailleurs, tu l'as revu, toi, l'acteur qui joue Son Goku ?
Non, j'ai jamais revu.
Ça a flingué sa carrière.
J'ai regardé sa filmographie. Et il n'y a rien fait de terrible. Hein. Dans le lot, il y a Chow Yun-fat qui ressort. Il y a Jamie Chung, celle qui fait Chi-Chi, qu'on a vu plusieurs fois, notamment dans Sucker Punch et dans Gifted dernièrement. Mais le reste des acteurs. Il y a James Marsters aussi, qui joue dans la série qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Là.
Ouais, c'est celui qui fait Spike dans Buffy contre les vampires.
Ouais, c'est ça. Mais à part ça, c'est un acteur de série, quoi. Il fera jamais rien, quoi.
Il n'est pas bon pour un film. Hein. Là, moi, dans le zoo de Piccolo, j'ai l'impression qu'il était mort à l'intérieur, le mec. Hein. Il croyait même pas à son rôle, hein, faut dire ce qu'il faut.
Bah, il était complètement. Ouais, c'est une ordure. Quoi. Mais la réalisation, je voulais dire aussi que c'est James Wong, il était scénariste de X-Files, il aurait dû rester. Et puis il a fait quelques films de la série Destination Finale, bon, qui n'étaient pas trop mauvais, en tout cas meilleur que ce film. Et il aurait dû rester dans le domaine de l'horreur plutôt que de s'empêtrer dans ce projet qui est complètement ringard.
Ou alors la Fox aurait dû tenir la promesse qu'ils avaient faite. Normalement, ils partaient pour une trilogie, hein. C'est-à-dire qu'ils respectaient à peu près le scénario, enfin, on va dire plutôt l'établissement des personnages, l'histoire, les rapports de force et l'évolution des personnages. Normalement, ils devaient partir pour une trilogie. trilogie pour pouvoir apporter de la matière aux personnages. Là, on nous balance des personnages dans la gueule en 1h20. On peut pas résumer un Dragon Ball en 1h20. Dragon Ball, c'est 52 tomes de manga groupés, c'est-à-dire en gros volume. On peut pas résumer ça en 1h20 de film. C'est techniquement impossible. C'est comme si on voulait nous faire une Justice League en 1 heure, quoi. Ou alors tout l'univers Star Wars en juste un épisode. Il arrive un moment, techniquement, c'est pas possible. Ça rentre
Techniquement, moi, je dirais que si, parce que de toute façon, comme tu avais dit la dernière fois, ils sont tous voisins finalement dans les Star Wars parce que ils se retrouvent tous, ils sont tous quasiment, ils ont juste à faire sauter d'une planète à l'autre et puis ils se retrouvent quoi. C'est ça, il y a beaucoup de coïncidences dans l'univers Star Wars finalement.
Donc voilà, Dragon Ball, gros budget, 30 millions. Pourquoi je le répète? Parce qu'on les voit pas. Ça aurait été un budget à 3 millions, j'aurais dit ouais, ça colle. Donc voilà, des acteurs, à part les Chinois, on n'en entendra plus jamais parler, hein, à part Chow Yun-fat, ça, on parlera plus jamais des autres acteurs. Ils auraient mis Jackie Chan dans Maître Roshi, ça aurait été encore quand même carrément pareil, quoi. L'acteur qui joue Son Goku, sa carrière est foutue, hein. Il pourra jamais se relever.
Lui est grillé, quoi.
Et puis, en plus, voilà, quand Dragon Ball est sorti, qui s'est fait démonter, hein, il y a quand même la prod qui s'est excusée. Quand la prod et la Fox disent « On est désolé, on a fait de la merde », voilà, je pense que c'est pas la peine de nous ressortir quelque chose, on n'arrivera plus à vous croire.
Oh, c'est bien beau des excuses, mais quand elles sont pas très sincères, ça vaut rien, quoi.
Et surtout que là, Toriyama, il a pété un plomb, hein, quand il a vu ce film.
Ah ouais?
Ah, il l'a renié. Il a dit que ça faisait pas, c'était pas un Dragon Ball, quoi. Il était furieux de ce qu'on avait fait de ses personnages. Et voilà. Et c'est ce qui a relancé Toriyama pour, relancer un petit peu sa licence en faisant Dragon Ball Z Kai et après Dragon Ball Super. Enfin, Dragon Ball Super, malheureusement pour lui, Toriyama, il devrait essayer d'apprendre à lire les contrats avant de dessiner.
Ouais, c'est ça, en fait. Moi, ça me pose un problème, c'est que, bon, les mecs, quand même, je sais pas si c'est lui qui détient les droits ou si c'est la maison d'édition, mais il devrait quand même avoir un droit de regard sur le scénario. Apparemment, là, il l'a pas regardé ou il a validé le truc et après, il vient se plaindre que c'est de la bouse, quoi.
Ah non, la Fox a racheté ses droits, il a plus rien à dire, c'est plus lui le propriétaire. Mais ils n'ont même pas consulté, donc ils ont voulu faire un film vite fait. Bah, ça se voit, voilà. Ils ont voulu faire un film vite fait avec beaucoup de budget, et puis ils se sont latés. Et, c'est un nanar niveau légende. Enfin, j'aurais dû me méfier, en même temps, il est sorti un 1er avril. Mais voilà, c'était une vaste blague en fait, ce film.
Une vaste blague, comme tu dis. Il y a Chen Long, 3 secondes à l'écran.
Ouais, c'est vrai qu'il y a Chen Ron à la fin.
Ouais, enfin, il l'appelle Chen Long dans le film. Mais
En fait, c'est Shenron qui s'appelle. Bah, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Hein. Ouais, le dragon, il est dégueulasse. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Quoi. Ouais, et en plus, c'est bien. On a le droit à des vœux. On va ressusciter Roshi. Le grand-père qui est mort au début, on s'en bat les couilles.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, quid du grand-père. Ah ouais, mais bon, franchement.
Bah, je m'en fous. J'ai pu rouler une pelle à chichi. Le grand-père, on s'en bat les couilles.
C'est vrai, moi je me suis dit, pourquoi Hiroshi est pas très important finalement.
Et puis en plus, on en parle du Kamehameha aussi dans ce film.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Qui allume des bougies avec son Kamehameha. Le Kamehameha.
Voilà, qu'est-ce que c'est, cette scène.
Le geste du Kamehameha, il est culte, hein. Je pense que je demande à mon fils de 6 ans, il sait faire le geste du Kamehameha.
Comme ça, là.
On met ses mains, on balance, comme un Hadoken, hein, tout simplement. Ouais. Et là, non, on touche les bras, on fait des formules, on fait des machins, et on met 40 minutes à faire un Kamehameha. Ils ont réussi à rater le truc culte de Dragon Ball, le Kamehameha. Ils ont tout raté dans ce film.
Même la mouche numérique qui au début, qui s'accroche, on voit. Tu sais, quand il fait l'entraînement avec son grand-père.
Ouais, qui fait manger la mouche.
La mouche, elle atterrit. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse numérique?
Moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse du début à la fin? Et vous savez quoi le pire? C'est qu'il y a une scène post-crédit là-dessus.
Ah oui, vas-y, raconte un petit peu.
Il y a une scène post-crédit.
Vas-y, raconte-le.
Piccolo, en fait, est pas mort. Donc, il s'est pris un Kamehameha dégueulasse, digne du plus mauvais des fanfics qu'on a trouvé sur Internet de la part de Sangoku, qui a repris le contrôle. Vu sa tête, je pense qu'il a dû faire une crise de constipation entre deux combats, parce qu'il fait une tête de constipé quand il va se battre. Et voilà, donc il arrive à battre Piccolo, happy end, tout va bien, on ressuscite Roshi, fin. Et scène post-crédit, où une villageoise prend soin de Piccolo, qui est fortement abîmé par le combat. Abîmé, non, il y a toujours la même tronche, hein. Mais il est affaibli, et voilà, une villageoise soigne Piccolo. Non mais vous allez vraiment nous servir un deuxième de ce machin? Vous l'aviez prévu? Vous vous êtes dit, il va faire du succès ce film, on va en faire un numéro 2? Ou vous voulez nous faire un dernier troll dans la gueule jusqu'à la fin?
Non, je pense que peut-être qu'ils avaient l'ambition de faire une trilogie, comme tu disais, puis ça a pas marché, le box-office a été catastrophique, donc on lance pas un deuxième épisode quand c'est limiteux comme ça, quoi.
Ouais, et puis surtout je veux bien que faut savoir sortir des scénarios convenus, pas forcément faire plaisir aux fans, leur servir ce qu'ils connaissent, mais je veux dire là vous aviez une bonne base, hein. Là vous êtes planté complètement, vous allez vous faire, je sais même pas ce qu'ils ont voulu faire. Honnêtement, je vois rien dans ce film de, je vois pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce film, avec cette licence. Ou alors ils avaient les droits et puis je sais pas, fallait faire comme les 4 Fantastiques quoi, fallait faire un truc vite fait pour pouvoir
Pour les droits, quoi.
pour les brevets ou pour les droits, mais non voilà, donc un film torché, un film quand même 30 millions de budget, alors ça me fait mal au cul qu'ils
Ah,
ont
je
mis
vois
30 millions
que
là-dedans.
t'es écœuré parce que tu as le 30, on l'a entendu au moins 10 fois dans
Ah, au
le.
moins 10 fois.
Ouais.
Et voilà pourquoi je dis 30 millions de budget, ça m'a écœuré, parce qu'on va, je pense, passer au deuxième
Ouais, on va
nanar.
passer au deuxième film.
Donc on
Enfin,
va
au deuxième
maintenant
film.
parler de Hokuto no Ken.
Hokuto no Ken, donc North Star, la légende de Ken le survivant.
Survivant de l'enfer. Souvent croise le fer, Ken, dans le chaos des esprits, Ken, contre les fous, les bandits, Ken, survivant de l'enfer.
Je vais présenter un petit peu l'univers. Ben, les créateurs, c'est Tetsuo Hara et Buronson. Tetsuo Hara, qui était un dessinateur qui, au début des années 80, dessinait surtout des mangas avec des héros qui s'inspiraient de Mad Max, donc avec des grosses motos ou des grosses bagnoles. Et lui, il est rejoint par son éditeur qui lui dit qu'il voudrait bien un personnage qui écrase, qui vainque ses ennemis à partir des points vitaux. Donc ça part un peu de cette idée-là qu'il crée le premier Ken, le premier manga de Ken. Qui est publié dans Weekly Shonen Jump, comme le précédent, avec ce jeune héros qui va venger un peu sa famille, mais ça se situe bien avant le Ken original, c'est-à-dire qu'on est bien avant la catastrophe nucléaire. Donc Buronson le rejoint au scénario, et il commence à lancer, et c'est l'histoire de Ken, il commence un peu à monter la mythologie, c'est-à-dire que Ken était un héritier de 2000 ans de techniques martiales assez meurtrières, qu'on appelle ça le Kutoshinken. Donc il va rencontrer Bart et Lynn dans la première série, dans les jeunes enfants, il va traverser les villages, il va affronter divers ennemis, au fur et à mesure de ces rencontres, de ces expériences, il va, comme je disais tout à l'heure, évoluer non seulement physiquement, mais aussi sur le plan spirituel. Le premier ennemi qui est marquant, c'est Lord Shin. Ensuite, il y a la saga des trois frères. On a Raoul, on a d'abord Jaeger, on a Toki, et on a Raoul qui devra vaincre en bout de course s'il veut vraiment pour devenir le roi absolu l'héritier absolu du roi du Hokuto. Donc qu'on appelle un héros qu'on appelle l'homme aux 7 cicatrices, du fait qu'il a 7 cicatrices sur le corps, et aussi l'héritier de la Grande Ourse, vu que ces 7 cicatrices représentent justement la constellation de la Grande Ourse. Donc cette première série, elle se termine avec Raoul. Il y a une deuxième série qui se passe sur une île où il doit affronter divers démons. Et là, je vais pas spoiler parce que il y a plein de trucs, mais il découvre en fait de nouvelles formes de Hokuto et de nouveaux personnages qui sont de nouvelles les nouvelles les origines du Hokuto, et aussi des personnes qui sont, dont il ne soupçonnait pas l'existence. Ces premières séries qui font en fait une 150 épisodes, ils sont inséparables pour moi. Et ensuite, on a une troisième série qui entre une trilogie d'animé, c'est Shin Hokuto no Ken, qui est sorti en 2003. Et là, c'est Ken, c'est un peu du réchauffé par rapport à la première série, c'est-à-dire qu'il arrive dans une espèce de cité interdite, où il y a un tyran, où il doit essayer de mener le peuple contre ce tyran, et... Cette série elle est assez bavarde, même s'il y a certaines scènes qui sont gore. On a un gros vide à partir de 2003 jusqu'à 2008. Et là, il y a tous les reboots qui sortent en OAV et dans le format OAV au cinéma, mais uniquement au Japon. Et c'est tous des versions. Ils reprennent en fait tous des arcs de la première série qui rebootent avec des graphismes plus évolués. Ensuite, on passe à ce que j'aime le moins, en fait, c'est la série préquelle. Fist of the Blue Sky, c'est Santon no Ken. C'est une série qui se situe dans le Shanghai des années 30. Et là, il y a le Ken qui est bien antérieur déjà à l'Holocauste nucléaire. Et là, Ken, il fait partie d'un gang et il doit défendre Shanghai contre un autre gang avec des personnages qui sont assez caricaturales. Il fume souvent, c'est-à-dire que il fume souvent, il bavarde beaucoup et il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui, comme dans les premières séries, lui posent problème en fait. Et c'est ça qui m'a posé problèmes, c'est il n'y a aucune évolution et c'est très loin, très pénible à regarder. Je sais pas si tu avais regardé un petit peu cette cette dernière série.
Moi, j'ai connu les premières séries Klein au Club Dorothée.
Ouais, moi aussi.
Donc forcément, avec les voix qu'on connaît, hein, le doublage français, voilà, le même doubleur que Patrick Duffy dans Dallas, d'ailleurs.
Ouais. Et puis, Philippe Auguste, pour voilà. Souvenir.
Puis des voix très enfantines, hein, très adoucies, hein, avec des voix comme dans les Tortues Ninja, hein, les mêmes voix. Enfin, c'était le même doubleur qui faisait les Tortues Ninja.
C'est la même société, ouais.
Puis des voix comme ça, ils étaient obligés d'adoucir. Sinon, ça aurait jamais passé en France. On a Famille de France, là, pour Cotton O'Kane, qui a vraiment pété un plomb.
Ouais.
Donc, voilà, c'est Eric Ken, je connais, c'est celle du Club Dorothée. Avec les atatatatata, au couteau de cuisine, le Nanto de Vison, voilà, des noms d'attaque.
Ça, c'est les fantaisistes, quoi, les dialogues vraiment fantaisistes.
Et en même temps, s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'en France, ça serait pas passé. Je pense que ça aurait jamais passé au Club Dorothée. Parce que, du coup, ça a donné une certaine d'humour, un peu comme Nicky Larson. Voilà, ils ont fait. Bah, c'était les mêmes doubleurs aussi, d'ailleurs. Mmh. On doublait tout à la chaîne, hein, les potes.
Ouais. C'est ça.
Et moi j'ai connu ça au Kuto no Ken, ça. Donc quand j'étais petit, franchement, voilà, ça me passait au-dessus, hein, au Kuto no Ken. Et puis un jour, j'ai connu au Kuto no Ken en VO. Et c'est là où j'ai commencé à accrocher. Et je me suis dit, la comparaison va être brutale. On pourrait le comparer à Jésus, hein, c'est-à-dire qu'il évolue dans sa condition pour transcender sa condition et il accepte son statut de sauveur malgré lui, en fait.
C'est ça.
Et là, quand on voit du coup en VO que c'est beaucoup plus, y a des scènes de baston, il y a des fois on se prend pas au sérieux. Mais ça devient pas spirituel, mais il y a une leçon à en tirer, qu'il n'y a pas forcément dans Dragon Ball. Et dans Okuto no Ken, quand il fait les combats fratricides contre Shin ou contre Rao en VO, waouh, j'ai eu des pincements, moi, je le dis honnêtement, j'en avais les tripes qui tremblaient. Et donc voilà, avec Okuto no Ken en VO, voilà, moi j'ai eu les tripes qui se sont prises, et là, je suis devenu fan de l'univers. Okuto no Ken, sur le tard, vraiment, quand j'ai commencé à regarder en VO. Bon, après, forcément, c'est toujours marrant parce que il bat ses ennemis toujours plus ou moins. Bon, les classiques, hein, on va dire, les sous-boss, il les bat toujours de la même façon.
Omae wa mou shindeiru. Nani ?
Et c'est tout, voilà, ça restait un mème sur internet. Mais c'est vrai que les combats, on va prendre le combat contre Shin. Moi, la fin du combat, j'en ai pas pleuré, mais ça m'a perturbé quand même parce que voilà, Shin, c'est un méchant. Tu te dis, c'est un méchant classique.
Ouais,
hein,
il y a tout ce qu'il y a, quoi.
Voilà, c'est un méchant. Et puis quand tu vois que il se fait battre par Ken pour montrer que ta nénette, elle s'est barrée, faudrait peut-être aller la retrouver. Je voulais t'endurcir un peu. Tu te dis, mais c'est quoi cette connerie ? Et puis en fait, tu te rends compte que il voulait vraiment lui piquer ça. Mais que la nana l'a jamais aimé, que Shin, du coup, il se fait suicider par Ken, en fait. Et putain, quand j'ai vu ça en VO, j'ai dit, super bien pensé, quoi. Même les épisodes avec Rao, les combats sont dantesques, et il n'y a pas de vainqueur.
C'est épique,
vainqueur. Pour du Okuto no Ken, c'est bien.
Ouais,
c'est épique. Hein. Et moi, je connais, dès cette série-là, et les séries du Club Dorothée, j'ai pas dire mal doublé, ils ont dû adoucir, parce que, Famille de France, il y a Ségolène Royal qui en était la présidente, et elle trouvait que les mangas étaient trop violents. Alors, les mangas sont violents, les mangas sont violents. Les JT de l'époque, moi je vais vous replacer en 95, c'est l'attentat au gaz sarin dans le métro de Paris. Voilà, on nous montrait des cadavres aux infos. Si ça c'est pas violent, faudra me dire ce qu'est la violence. Donc faire la différence entre la violence de fiction, sachant que les gamins sont pas aussi cons qu'ils en ont l'air, ils savent que c'est pour de faux, et de la violence réelle qu'on nous montrait à l'époque, moi je pense que c'est juste qu'on était vexés que les Français, à part moi, Renard, on savait pas faire des séries, et je pense qu'on était vexés qu'on devait aller les acheter au Japon.
Ouais, c'est ça, il y a cette histoire de dessins animés à la chaîne. Comme tu le dis, il y avait Jean Chalopin en ce temps-là qui sous-traitait au Japon. Je pense à Ulysse 31 ou Jace et les Conquérants dans la Lumière.
Alors Ulysse 31, c'est à part, hein, c'est une coproduction, hein, c'est-à-dire FR3 et le Japon qui ont collaboré.
Ouais, mais les dessins animés, ils ont été faits au Japon.
Par contre, Jace et les Conquérants de la Lumière, c'est pas japonais, c'est américain.
C'est pas japonais.
Non, parce que là, c'est un dessin animé, comme tous les dessins animés américains, Mask, G.I. Joe, Jace et les qui rendent la lumière, c'est pas des dessins animés pour nous montrer une histoire, c'est des dessins animés pour dire regardez nos jouets.
L'aspect japonais de certains personnages, on voyait quand même, et c'est vrai qu'en France, on n'était pas capable de faire un dessin animé. Moi, je pense aussi, il y a Oli était une fois l'espace aussi qui n'était pas trop mal.
Ah, Oli était une fois, encore une fois, c'est européen, c'est-à-dire que c'est pas que la France qui faisait le dessin animé. Après, on va prendre Rémi sans famille, tout le monde a cru que c'était européen ou français, c'est un manga, les mecs. Hein.
C'est un manga. Comme Heidi, alors peut-être.
Ouais.
Heidi aussi,
c'est un manga. Candy, c'est un manga. Il y a des trucs, Ulysse 31, ça a été réalisé avec les meilleurs mangaka de l'époque. Hein, donc, Ulysse 31, la vache, t'as déjà regardé les épisodes?
J'adore, moi je suis fan de Ulysse.
T'as vu comment c'était oppressant, flippant.
C'est hyper sombre, il y a une ambiance particulière. Il faudra qu'on en parle à un de ces qu'on fasse une émission là-dessus. C'est vrai que c'était hyper oppressant. Puis t'avais déjà ces 5 minutes tous les soirs là, qui te coupaient. T'avais un cliffhanger à chaque fois. C'était vraiment bien fait, quoi.
C'était une série excellente. extrêmement bien faite. Comme quoi, si Famille de France, au lieu de gueuler, aurait peut-être lancé la... Enfin, pas eux, ils pouvaient pas. Mais laisser la collaboration se faire, on aurait peut-être eu des autres séries qui sont arrivées chez nous, beaucoup sur le tard, comme Jojo's Bizarre Adventure, ou même Slump, qui est arrivé après Dragon Ball, grâce au succès de Dragon Ball. Voilà, on avait des bons trucs de manga qui étaient sortis au Japon et qu'on n'a pas eu en France à cause d'un préjugé. On va peut-être pouvoir même comparer L'École des Champions et Captain Tsubasa, que vous connaissez plus sur Olive et Tom. L'École des Champions, donc, c'est une production européenne, et Captain Tsubasa, c'est un manga. Et conclusion, L'École des Champions, très peu s'en souviennent, et Olive et Tom, la quasi-totalité des personnes s'en souviennent. Et surtout des terrains de football qui font 18 km².
Surtout les boulets de canon qui tirent des pieds, là. Pff.
Et oui, en 3 épisodes, le ballon fait 20 mètres.
Non, bah tu parlais de ce problème de censure et moi j'ai en souvenir que il y avait déjà eu ce problème de censure dès les premières apparitions de la Japanimation en France. Je pense à Goldorak et ils avaient reçu des milliers de lettres comme quoi que c'était les parents aimaient pas du tout le ton extrêmement violent et un peu moderne de la série. Ils ont dû continuer la série mais ils ont dû arrêter un petit peu parce que c'était tellement plus pour des adolescents que pour les enfants.
D'ailleurs Goldorak, il y a une belle anecdote, c'est que ouais. Nous les saisons d'après de Goldorak, on les a eu plus tard, parce qu'au début, voilà, ils combattaient des Golgoths, mais il n'y avait personne dedans. Mm. C'est-à-dire que c'était un robot qui combattait des robots, mais des drones, quoi. Il n'y avait pas de personnage. Et en effet, ça a commencé à gueuler quand les forces de Vega ont mis les Anterak avec des pilotes. Ouais. Et là, voilà, là, ils ont gueulé.
Bah, c'est une anecdote, comme tu dis, et c'est vrai que l'histoire des Golgoths, bah, ça s'est confirmé, c'est que apparemment, dans la version manga, pas l'anime, c'est qu'ils mettaient des cerveaux d'esclaves dans les robots. Donc ça a un petit peu choqué. Et c'est vrai que si on compare la série animée Goldorak et le manga, c'est pas du tout pareil, c'est encore plus hard hein, au niveau des personnages et tout quoi.
Puis moi ce que j'aime pas dans Famille de France, c'est très valable pour Okuto no Ken, ce que je vais dire. Il nous disait que c'était débile. Alors déjà moi je pense que la débilité
elle vient pas forcément d'où
elle vient pas France. Forcément de l'ouvrage, mais elle vient de l'interprétation qu'on a de l'ouvrage et surtout de comment c'était doublé. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'était débile. Il nous disait que c'était de la violence gratuite. Alors, désolé, elle était pas gratuite la violence. Ken il était jamais violent gratuitement. Il pétait pas la gueule de ses ennemis pour le plaisir de leur péter la gueule quoi. Il a apporté quand même une réflexion. Parce qu'il y a quand même un moment voilà, Ken fait des combats fratricides et puis il se rend compte, même Ken, que c'est peut-être pas bien ce qu'il fait, tu vois, il se pose des questions. C'est quand même l'un des premiers, moi je me souviens, à part Senseiya, l'un des premiers héros qui chiale quand il doit tuer quelqu'un, quoi.
C'est ça.
Il a les larmes aux yeux, il en pleure, il en souffre et il n'y a pas le choix, il est obligé de se relever, c'est un monde post-apocalyptique, donc forcément c'est violent.
Il y a toujours une certaine compassion envers l'adversaire, en fait, Ken, même si il comprend la souffrance de l'adversaire parce que apparemment d'après ce que je sais, c'est que en fait il incurgite un peu l'aura de son adversaire.
Ouais, puis c'est très rédempteur, dire il pardonne à Shin.
Ouais.
Quand Shin il lui a quand même fait ses cicatrices,
il lui a envoyé,
il l'a laissé pour mort, il a piqué sa nénette, enfin il a fait pire hein, dans les VO, hein, il l'a violé, etc. Ah voilà, il pardonne à Rao qui a essayé quand même d'anéantir
de le tuer par trois fois, ouais.
De le tuer, voilà.
Ouais.
Et en fait il arrive à avoir de l'empathie envers ses personnages, quoi, envers ses ennemis.
Ouais.
Donc moi je suis désolé, apprenez aux enfants à avoir de l'empathie, je vois pas ce qu'il y a de dérangeant. Donc voilà, non, Famille de France a monté sur ses grands chevaux.
Puis il n'y a aucune cruauté chez Ken, quoi. On voit que s'il fait ça, c'est parce qu'il veut rendre la justice, c'est tout.
Ouais, puis en plus, il se rend compte qu'il doit embrasser son destin. Il veut pas être le sauveur. Il refuse son destinée. Mais comme Toki, ou celui qui fait les attaques qui tranchent tout, je sais plus son nom, là. Ouais, Rei, même Rao qui lui dit « Maintenant que t'as réussi à me battre... » Bah, il faut que tu pousses ton destin jusqu'au bout. Ouais. Il dit, t'as plus le choix, quoi.
Ouais, l'histoire de Rey aussi est passionnante. Hein,
l'histoire de Rey, ouais, quand il se fait écraser par la pyramide à la fin. Ouais, c'est... Oui. Putain, moi, j'en ai pas eu des larmes, mais ça m'a quand même plus perturbé qu'en VO, qu'en VF, où voilà, les dialogues étaient volontairement plus débiles pour que ça passe auprès du jeune public.
Faut savoir que tous les épisodes, ils sont pas passés. Il y en a que 90 qui sont bons, ils ont été doublés. Et tout le reste, il a été doublé uniquement pour l'édition DVD. Donc ça fait que dans les derniers épisodes, c'est plus sérieux, c'est plus proche de la version japonaise. On est moins dans le Okuto coup de cuisine et tous les conneries du style. Et là, c'est vraiment, il y a le ton assez sérieux du manga, dans les derniers doublages.
Ouais, un ton plus Mad Maxien. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ouais, clairement. Hein. Enfin, de toute façon, il s'est jamais caché, hein, le réalisateur. Il a dit que Mad Max, ça l'avait transcendé et qu'il voulait absolument faire un univers.
Ouais, parce qu'on n'a pas trop parlé des influences de Tetsuhara. Moi, je parlais de Mad Max, surtout le 2, parce qu'on voit bien que même dans l'accoutrement de Ken, avec l'épaulette, son habit... D'ailleurs, le mec arrête pas de déchirer ses vêtements, on se demande comment il sera habillé à chaque fois.
Ah, c'est comme le Hulk, hein. Et à chaque fois qu'il déchire un vêtement, ça repousse tout seul.
Et il y a aussi, on voit une admiration profonde pour Bruce Lee, quoi, parce que il y a les cris, il y a toutes les poses qu'il prend. Moi, je pense notamment à cette célèbre photo du jeu de la mort où il est comme ça en pose de combat. Et dans Ken, c'est exactement ça. Il y a les fameux 100 coups de l'étoile du Nord. Ça, c'est imparable. Et ça, quand on était gamin, on l'attendait avec impatience, quoi, parce que on se savait ah ta 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 ta. Et puis il s'excitait. Et puis finalement, le gars volait. Ce qui n'est pas le cas dans le film qu'on va aborder d'ailleurs.
Voilà, Okuto no Ken, on va devoir aborder maintenant le film de 95. Ouais. Donc on vous a bien replacé tout le contexte de l'univers. Ouais. Donc vous voyez, il y a de la matière pour faire un film aussi. Hein.
Aussi.
Un mélange entre Mad Max et les films d'action à la Bruce Lee. Mm-hmm. Voilà, il y avait quand même de la matière. Malheureusement, pour la version de 95, il n'y avait que 6 millions de budget.
Donc il pouvait pas embaucher non plus des acteurs super.
Alors, il y avait 6 millions de budget, mais alors moi je vais donner mon avis tout de suite, il est quand même mieux que Dragon Ball Evolution.
Ouais, toi tu compares ce qui n'est pas comparable, quoi. Donc, si tu veux commencer ou je commence pour...
Alors, je te laisse commencer.
Pour flaguer. Parce que, bon, Ken, il arrive dans un village. Déjà, le village, il y a plein de brumes. Il y a deux, trois tonneaux. Il y a une dizaine de figurants qui se battent autour de deux, trois tonneaux. Après, il y a contre un grand balèze. Enfin, un grand balèze. Je crois que ça fait référence à Z, d'ailleurs. Le mec, le premier vilain de la série. Il lui fait des petites... comment on pourrait dire? Des petites touches de...
Des petites pichenettes.
Ouais, des petites pichenettes... comme si qu'il s'amusait entre gamins, on voit bien qu'il retient ses coups. Et puis l'autre, il se demande quoi, et nous aussi d'ailleurs, parce que il dit quoi, puis après, ah, tu es déjà mort, ah bon? Et l'autre, sa tête commence à gonfler, mais on verra pas le reste. Donc là, déjà, au niveau budget, c'est limite, ça fait très parodique déjà, rien que cette scène. Après, il arrive, il rencontre Barthélin, il rencontre Jagger, qui ici, il y a plein de câbles qui lui enroulent autour de sa tête. Je sais pas en quoi les câbles vont retenir les boss, mais bon. Mais Jagger, qui est une espèce de lieutenant de l'ordre de Chine, alors. Ça aussi, c'est une catastrophe, hein, parce que il y a aucune mention de l'école du Hokuto dans le film. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais lui, c'est le chevalier de Vega. Alors, je sais pas s'il est échappé de Goldorak, le mec, mais c'est complètement ridicule, quoi. Puis en plus, le gars, bon, il va contre l'ordre de Chine. Il y a une espèce de tour, la Croix du Sud. C'est la Croix du Sud, la bannière. Puis, on va aborder les acteurs, parce que là, c'est carrément mauvais, quoi.
Oh, on dirait les mêmes acteurs que dans Les Maîtres de l'Univers.
Ouais, enfin, là, t'as quand même Gary Daniels, qui est un artiste martial, déjà. À la base, ça se voit pas trop dans ce film. Hein. Moi, je l'ai vu dans d'autres films, il était quand même plus dynamique. Là, il est une espèce de. Pourquoi il a des cheveux longs alors que Ken n'a jamais eu les cheveux longs? Bon, il a un regard de bovin, faut le dire. Bah, quand il fait du karaté, il est un peu mollasson. C'est un Ken mou du genou, moi, je trouve. Hein.
Ouais, ils auraient pu prendre, Sacha Mitchell ou un truc dans le genre.
Ouais, un truc comme ça, tu vois, un mec vraiment. Il est massier, quoi. Ouais, tu penses que Sacha Mitchell, c'est le mec qui est boxeur. C'est ça?
Ouais, il avait aussi tourné dans Notre Belle Famille.
Non, c'est pas. Bon, je veux dire, au niveau des costauds, ils avaient de quoi faire en cette période-là. Bah, Gary Daniels, on l'a vu dans un petit rôle dans Expendables, d'ailleurs. Et puis, face à lui, il a l'ordre de Chine, là, qui est incarné par cet acteur qui cabotine à mort, donc il s'appelle Costas Mandylor. Puis là, c'est la pantalonnade, quoi, avec ces espèces d'éclairs de boules jaunes à la Dragon Ball, quoi.
Avec le sang qui gicle, on voit les tuyaux.
Ouais, c'est horrible, et puis ça pète de partout. Il n'y a qu'une scène que moi, j'ai retenue, c'est la scène des 7 cicatrices. Je trouve qu'elle est fidèle au manga, mais c'est vraiment le seul passage qui est fidèle au manga dans le film. Enfin, je sais pas, moi, le duo final, c'est mal fait, c'est mal filmé, il n'y a aucune chorégraphie, c'est un montage vraiment catastrophique.
C'est un peu filmé comme le Mortal Kombat numéro 2, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à y croire.
Vu le 2, alors,
ouais, c'est des combats, on dit, vous vous tapez vraiment, les mecs, ou vous dansez.
C'est vrai qu'il y a un kung-fu dansant, j'ai l'impression.
Ouais, c'est. Je sais pas, la chorégraphie semble bizarre. Il peut avoir une belle chorégraphie de combat, comme dans les films de Bruce Lee, je suis désolé, les chorégraphies de combat sont bien. Je vais même aller jusqu'à dire que les chorégraphies des films de Jackie Chan dans les combats sont mieux. Voilà, et puis bon, on nous sert une scène à la manga, c'est-à-dire qu'il se fait dominer par Chine et à la fin il se relève et puis on sait pas comment et puis hop, il bat Chine.
Oh, puis ça va tellement vite, je crois qu'il fait même pas une heure et demie ce film. Alors, c'est vraiment un condensé des 20 premiers épisodes. Hein. Il y a la scène des 6 petite cicatrice. Entre deux, t'as un flashback avec un maître, le maître Riken, qui d'ailleurs se fait flinguer. C'est ridicule. Je sais pas, mais ils sont censés quand même arrêter les balles, les mecs, parce qu'on voit Ken qui a toutes les flèches comme il veut. Mais là, c'est... Je sais pas, moi, j'ai tel niveau de ringardise, quoi.
Voilà, un nanar. Mais en même temps, bon, bah, ils avaient pas de bons réalisateurs, et ils avaient pas de budget, hein, faut dire ce qu'il faut, hein. 6 millions. Bah, on les voit, là, les 6 millions, hein, par rapport à 30 millions de notes.
Alors, on les voit.
Bah, je vais pas m'en remettre.
Que les figurants, on les voit, hein. Ils sont cachés, mais bon. Les scènes de combat, non, mais bonjour, quoi.
Une sortie en 95, quand même. C'est vrai qu'on avait, quand même une belle brochette de nanars qui sont sortis en 95. Mais moi, je pense que c'était pas un film qui était fait pour se prendre au sérieux.
Il est pas sorti cinéma, celui-là, il est directement sorti en vidéo, hein. Puis heureusement, parce que de toute façon, à mon avis, ça aurait été catastrophique, mais il faut parler aussi de la scène gore où justement la tête de Jagger explose, t'as les tuyaux partout, ça gicle, on voit la sauce tomate qui gicle, mais c'est n'importe quoi.
Après voilà, un film qui sort directement en VHS, donc qui était prévu pour être un nanar, je pense pas qu'il était prévu pour être pris au sérieux, parce que bah, j'espère
là,
pour
c'est
eux.
C'est une insulte à la saga, quoi.
Bah ils ont essayé de faire quelque chose de fidèle, bon c'est raté, hein. Mais au moins, ils se sont pas foutus de notre gueule en nous annonçant pendant des années et des années, on va faire un film, regardez, ça va être bien, etc. Ils nous ont sorti ça directement aux cassettes dans la catégorie nanar.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosse, il n'y a pas eu d'affiche teaser ou de trucs comme Dragon Ball en annonçant la grosse production. Là, moi j'ai découvert ce film par hasard dans le magazine Mad Movies, je sais pas si tu connais, et j'étais surpris. Ah, je dis merde, il y a une adaptation de Ken. Bon, les photos, elles pas trop mal parce que, au niveau photo, je dis, le mec a pas l'air très charismatique, mais peut-être qu'il y aura quelques bonne scène de combat et quelques textes explosent, mais à l'arrivée, il n'y a rien qui explose, quoi. Je me suis fait vraiment chier, quoi, devant ce film.
Il n'y a pas grand chose à tirer de ce film. Je sais qu'à un moment, il y a un placement de produit sur une bouteille de Perrier. Il faudrait que je le retrouve, celui-là. C'est-à-dire qu'à la fin,
furtif,
un moment.
Alors, hein.
Ouais, c'est furtif, et on dit oh, du Perrier. Et c'est tout ce qui m'a capté dans le film. Sinon, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à en tirer, mais non. C'est vrai qu'il est, il est vraiment nanardesque, typique des films nanards des années 90.
Non, t'as vraiment l'impression de tourner en rond dans ce film. Bon, Ken arrive au port de la cité. Comme je l'ai dit, c'est le décor fauché, quoi. Puis même les extérieurs, je crois que c'est une espèce de peinture un peu bizarre, quoi. Ou une maquette qui est mal foutue, mais... Puis parlons de la fameuse scène du atatatatata, hein. Y a rien qui va dans ce sens, quoi. Moi, je m'attendais quand même à un effet de style, tu sais, le mec qui va vite, et le gars, quand il reçoit les coups, bah, il reste fixe, hein. Il dégage pas comme les vilains dans la série animée, quoi. C'est consternant, moi, je suis fort déçu. Bon, faut quand même signaler qu'il y a eu deux versions taïwanaises, quoi. Et coréenne comme Dragon Ball, mais ces deux versions c'est encore pire, hein. C'est des mecs avec des perruques, des mecs qui sont des perruques, des mecs qui ont les habits sont trop deux fois trop grands pour eux, ils ont les cicatrices et des espèces de, je sais pas, ça fait un peu brûlure de cigarette, tu sais,
on dirait des dessins qui a été
fait
par un gosse, en fait.
Ouais. Et puis c'est du surjeu, quoi. Enfin, moi j'ai vu la bande annonce, j'ai pas vu le film parce que de toute façon il est introuvable, qui veut bien dire que à l'instar de Star Wars, il est des spéciales, ce sont des collecteurs maintenant.
Ouais. Et à l'instar de Star Wars, ils ont pas honte de ce qu'ils ont fait. C'est à l'époque de ce qu'ils pouvaient faire.
Non, c'est consternant. C'est vraiment un objet. Moi, je le garde parce que je suis fan de Ken, mais je le regarde pas souvent, quoi.
Ça fait série B, hein.
Ouais.
Voilà, c'est une série B. Ouais, une série Z. C'est vraiment pas fait au cinéma. Non, c'était pas fait pour passer au cinéma. Ça me fait penser un peu à Mosquitoes ou j'ai plus qu'à d'autres films qui sont sortis directement en VOD, genre les derniers Universal Soldier qui sont même pas sortis au cinéma.
C'est ça.
Parce que bon, c'est pour racler les fonds de tiroir et faire de la retape, quoi. Mmh. C'est tout, c'est pas plus que ça. C'est pas un film qui se prend au sérieux, hein. Voilà, le scénario c'est basique, les acteurs cabotinent, et puis y a pas de budget, et puis ça se voit clairement que y a pas de promo derrière. On n'attendait pas grand chose de ce film, ce qui était pas le cas pour Dragon Ball. On attendait beaucoup de ce film.
C'est ça.
Mais là, voilà, là c'est tellement confidentiel le film Ken que personne l'attendait et il est venu quand même.
Et il aura dû rester dans le tiroir. Il y a un truc qui me revient, c'est les phases de combat, c'est que t'as jamais l'impression que les vilains ils sont dangereux, quoi. T'as toujours des vilains qui sont, ils font au moins 5 têtes de plus que Ken dans la série animée. Et là, ils sont carrément, ils sont de leur taille ou ils sont un peu plus gros, mais il y a jamais l'impression de gigantisme, quoi, de danger. On sent tout de suite qu'il va s'en sortir, quoi.
Même Ken n'est pas impressionnant. Alors non. C'est sûr, ses ennemis ne le sont pas non plus, hein.
Ouais, je crois qu'on s'est assez défoulé sur Fist of the North Star, donc Okuto no Ken, qui signifie donc en japonais le point de l'étoile du Nord. Moi je le recommande pas du tout, hein, ce film-là.
Vous pouvez le regarder, mais vous n'avez pas passé un bon moment, même si vous le regardez au troisième degré.
Ouais, pour s'endormir, c'est bien, quoi.
Ouais, pour s'endormir, c'est bien. Moi je vous conseille quand même Dragon Ball Evolution. Ouais. J'ai pas envie de souffrir tout seul. Alors Dragon Ball Evolution, hein, qui a eu la pire note de l'histoire sur Rotten Tomatoes et sur Allociné. Donc et puis bah Okutonoken, sorti 95, donc quand même beaucoup plus tôt, mais voilà, film fauché de façon à l'origine. Hein. On va le sortir que en cassette et c'est marre.
Faudrait que vous lisiez la critique qui a été faite sur le site Nanaraland, parce qu'elle est hilarante. Moi j'ai attrapé une barre tellement ils se foutaient de la gueule du film, et notamment l'inexpressivité de l'acteur principal. Et c'est vrai que le mec, bah il volait Dolph Lundgren et Steven Seagal. Et tout ce que tu veux, quoi, au terme d'expression, il s'en sort pas, il n'y a aucune nuance, ou bien il surjoue, quoi.
Alors moi, ça va me faire penser au fait de trouver un peu difficile de faire des mangas en adaptation.
On peut lancer ce débat aussi.
On peut lancer ce débat. Moi, je trouve qu'ils ont réussi pour Death Note, mais bon, c'est plus une série qu'une adaptation. Mmh. Mais voilà, Dragon Ball, c'est quand même très dur à adapter. Hein. Mmh. Il y a un univers vraiment à part. Ça raconte quand même quelque chose qui est dur à adapter dans le monde moderne. En Kutonoken, il y avait quand même plus de matière, je trouve. Mmh. Tu vois, un Mad Max à la Bruce Lee, quoi. Voilà.
Ouais, c'est
entre Mad Max et Bruce Lee. Et en fait, là, les adaptations, bon, il y en a une qui a été torché vite fait, 6 millions, on fait un film vite fait et puis on va voir ce qui se passe. Et après Dragon Ball, on va faire ça mais on sait pas, on va faire ça mais on sait plus non plus. Et du coup, bah là, ils ont torché un film à 30 millions quoi.
On peut faire une petite liste parce que c'est vrai qu'il s'en a pas beaucoup. Bon, il y a le Nickel Larson et Jackie Chan que j'ai pas vu d'ailleurs, je sais pas s'il est réussi.
Oui, il est passable, ça reste un film de Jackie Chan. Bon, c'était en pleine hype de Jackie Chan, donc forcément il a eu son petit succès. Bon, il a pas fait des millions d'entrées non plus, hein, mais il a fait quand même son petit succès. Vu que t'es regardable, mais voilà, ça, c'est pas un Nickel Larson, c'est un Jackie Chan.
Ben, il y a aussi des adaptations plus ou moins officielles de Cat's Eyes. J'ai vu ça aussi en coréen ou japonais. Il y en a plein en fait. Hein. On peut citer les mangas SF, style Space Battleship Yamato par exemple.
Qui est bien réalisé celui-là par contre.
Très bien. Dernièrement, il y a Ghost in the Shell, qui n'est pas bon du tout.
Bah, là encore, ils nous ont resservi. Là, ils ont fait l'effet inverse de Dragon Ball. Ils ont pris tous les éléments du scénario, ils ont fait copier-coller en live.
C'est ça.
Ouais, par la fin, ouais.
Il y a aussi Edgar Cambrioleur qui a été adapté en film.
Lupin, il a été adapté.
Lupin 3, ouais. Qui était pas trop mal comme film.
Parce que moi, j'ai vu Lupin et le château de Cagliostro, mais c'était pas un live.
Non, ça, la version live, c'est Lupin 3.
Ouais, qui était vraiment, vraiment bien fait d'ailleurs, celui-là. En live, j'ai pas vu de version.
Tu l'as pas vu?
Non.
Bah, faudrait que tu le regardes parce qu'il est vraiment bien, le Lupin 3. Il y a La Bataille des Planètes, Gatchaman qui a été adapté, mais c'est super mauvais.
Il y a Devilman qui a été adapté, mais qui est mauvais.
Les grands mangas en film, il y a Akira, hein, c'est toujours Akira. Dans le genre manga adulte, pour moi, Akira, ça reste quand même une référence, quoi.
Ah, dans le Zainen, ouais, c'est le manga la référence. Mm. Sinon, les références manga, c'est Miyazaki. C'est ça. Quand on parle de manga film, on va tout de suite penser à Miyazaki. Genre, je sais pas moi, Le Voyage de Chihiro, Steam Boy, Château dans le ciel, quoi que celui-là il y a encore un peu plus confidentiel. Enfin, tous les trucs comme ça, voilà. C'est quand on pense manga, on pense à ça.
Il y a aussi l'adaptation de Albator, et puis je parle pas de live, hein, je parle plus d'adaptation en long métrage. Comme t'as Albator, le film 3D, que moi j'avais bien aimé malgré que ce soit un petit peu obscur à la fin, je sais pas ce que t'en as pensé.
Alors, j'ai écrit une petite critique là-dessus.
Ouais.
Moi j'ai bien aimé l'allégorie entre. Ça va être dur, ça va être polémique là.
Tu veux être spoiler ou
Non, c'est pas au niveau spoiler, ça va être très polémique. C'est-à-dire que Albator, il a des convictions et moi, à la limite, je trouve qu'il est carrément terroriste hein, à certains moments. C'est-à-dire qu'il veut faire péter tout l'univers pour le rebooter quoi.
De toute façon, tout le monde l'a vu Albator quasiment, mais on va spoiler. C'est que en fait, c'est pas le vrai Albator qu'on a dans le film. Après, t'as t'as son compagnon qui lui est plus mesuré et lui, je crois que c'est lui le vrai Albator finalement.
Ouais,
c'est
son vrai. La morale m'embête dans Albator, hein, c'est-à-dire que il fait du terrorisme, c'est lui qui a détruit la planète, etc.
Ah oui, de toute façon, il est complètement fou. Hein.
Ah ouais, il est barré, quoi.
C'est ça qu'on attend, c'est ça la bonne surprise du film, je dirais, c'est que finalement, il est pas si héroïque que ça, Albator, quoi, finalement.
Ouais, puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est très japonais à la fin, il a le pouvoir de détruire le monde, mais il le fera pas, il va lui lancer une dernière chance. Mm. Bon, ça, c'est toujours japonais.
Hein. Oui, avec la fleur et tout. Et aussi, moi, j'ai pas vu, mais il y a eu Senseiya dernièrement.
Ah ben toi, non, mais il faut absolument que tu le vois, ce film. Je crois que j'ai préféré Dragon Ball Evolution.
Donc Senseiya qui était sorti au cinéma en 3D.
Non mais encore un bel exemple de film, film adaptation, enfin ce que vous voulez, qui peut pas être résumé en 1h30. L'arc du sanctuaire, c'est quand même près de 52 épisodes. Ils ont voulu le résumer en moins d'1h30. C'est foutu, c'est raté, c'est un nanar. Hein. Le film Senseiya est un nanar parce qu'on peut pas et nous annoncer les personnages, et nous annoncer le sanctuaire, et nous annoncer Saori. Ça rentre pas dans une case d'1h30, c'est techniquement impossible.
Mmh. Donc pour revenir à Dragon Ball. Tu conseillerais plutôt Dragon Ball Evolution ou Dragon Ball et les 7 boules de cristal?
Bah, allez pas voir le Taïwano, parce que vous allez vous emmerder. Mmh. À regarder au second degré, pourquoi pas? Bah, vous ferez moins chèque en regardant Dragon Ball Evolution. Hein. Mmh. Mais c'est pas quelque chose qui est agréable à regarder. Hein. Je veux dire, ça fait fake. Les scènes de combat sont fake aussi. Sauf les scènes du début qui sont à peu près correctes. À peu près, on va vraiment mettre à peu près. Après, Dragon Ball Evolution, ça c'est la Fox. Hein. La fois qu'il nous a dit penche-toi en avant et tous, quoi. C'est...
Voilà, c'est ça.
Tous, ouais. On s'est pris une belle carotte avec Dragon Ball Evolution. En même temps, il n'y avait pas de prétention dans le film Dragon Ball Taïwan aux Philippins, mm-hmm. mais il y avait beaucoup de prétention dans le Dragon Ball de la Fox.
Moi, je voulais parler de Ken, c'est-à-dire que au lieu de vous emmerder à regarder le film live, la version gagnait un long métrage animé qui est sorti en 86 et en fait qui résume, elle fait une heure et demie, hein, elle est pas très longue. Vous tapez tous les épisodes, c'est un condensé des 50 premiers épisodes, c'est-à-dire que il raconte toute la saga de Ken jusque son premier affrontement avec Raoul et c'est beaucoup plus intéressant que le film la dope qu'on vient de parler. Quoi. Donc si vous voulez un petit peu avoir un premier aperçu de l'univers de Ken, bah, il faut regarder ce long métrage animé.
Au niveau de Dragon Ball, non, mais vous emmerdez pas à regarder ni Evolution, ni le Taïwan aux Philippins. Vous allez avoir du mal à les trouver de toute façon. Enfin, si, Dragon Ball de la Fox, vous le trouverez à 1€ dans n'importe quel Easy Cash. Hein. Ils seront ravis de s'en débarrasser. Hein. Donc,
ils vous le donneront.
Ouais, ils vous le donneront à la rigueur. Par contre, ouais, si vous voulez vous farcir Dragon Ball, plus Dragon Ball Kai alors. Mais le problème, c'est que Dragon Ball Kai, ça commence qu'à Dragon Ball Z. Et pour tout ce qui était humour au début dans Dragon Ball, vous l'avez que jusqu'à la saga Piccolo. Après, vous avez plus d'humour dans Dragon Ball. Ça devient plus de la baston et toujours le même arc scénaristique. Donc, si vous voulez du Dragon Ball, essayez quand même de voir les premiers Dragon Ball jusqu'à l'épisode donc du démon Piccolo. Là, vous avez de l'humour, du suspense et pas trop d'épisodes où il nous ressasse pendant 10 minutes ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Après, concentrez-vous sur Dragon Ball Kai. Dragon Ball Super, il n'y a pas vraiment de matière. Vous allez reconnaître la même trame qu'un Dragon Ball Z.
C'était ça notre premier duel de nanar. Alors moi, je dirais que c'était le duel des 7. Parce qu'on a d'un côté, on a les 7 boules de cristal et d'un autre, on a les 7 cicatrices. Et
puis les cicatrices, ça va en laisser dans nos mémoires, ces films.
On peut peut-être annoncer un petit peu notre futur programme de nanar.
Donc on a une sujection de nanar sur Flash Gordon versus Jupiter, le destin de l'univers. Mmh.
Highlander 2 versus Running Man.
Mad Max 3 versus Cyborg.
Les Maîtres de l'Univers versus Conan le Destructeur.
Ensuite, on a Perdu dans l'Espace versus Sankukai le film.
Robocop 3 versus Judge Dredd.
Spawn versus Ghost Rider.
Et Independence Day, premier du nom, contre Independence Day, Resurgence. On va choisir dans la liste prochainement, et je pense qu'on s'en fera un depuis un ou deux mois peut-être.
Voilà, on va refaire une petite séance. Ben là, en ce moment, l'actualité est assez pauvre au niveau sortie. Mmh. Donc on va plus se concentrer sur une bonne petite séance nanar. Mmh. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu.
Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître.
Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.